Et bonjour à tous. On pratique de plus en plus d'opérations de l'obésité en France, mais certains établissements ne respectent pas les règles préconisées par les autorités de santé et ça peut avoir des conséquences graves. C'est ce qu'on va voir avec votre enquête, Laetitia Chirel. Bonjour.
Bonjour.
Et puis nous recevrons Gilles Luneau. Bonjour également.
Bonjour.
Alors vous publiez Steak Barbare, un livre enquête consacré à la viande cellulaire, une viande élaborée à partir de cellules souches dans laquelle investissent de nombreux patrons de GAFA, Facebook et Amazon notamment.
France Inter. Secret d'info. Jacques Monin.
Nous le savons, des interventions de chirurgie bariatrique ont connu un essor sans commune mesure avec l'augmentation du nombre de personnes obèses. L'activité de chirurgie de l'obésité doit donc être régulée. C'est un enjeu de santé publique et de sécurité sanitaire.
Voilà, vous avez sans doute reconnu Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, qui veut réguler les opérations de l'obésité, qu'on appelle aussi chirurgie bariatrique. Elle annonce que la réglementation va changer parce que cette chirurgie débouche parfois sur des dérives. Mais de quelles dérives parle-t-on? Quel est le problème avec cette chirurgie de l'obésité? Alors on va le voir dans quelques instants, mais ce qu'il faut d'abord préciser, Laetitia Chirel, c'est que comme on vient de l'entendre, ces opérations, elles sont effectivement en très forte augmentation.
Oui, elles ont été multipliées par 20 en 20 ans. Pour vous donner un ordre d'idée, 500 000 Français ont été opérés ces 10 dernières années. On en est à 60 000 interventions par an. Et la France est parmi les pays occidentaux qui pratiquent le plus cette intervention, alors que ce n'est pas chez nous qu'il y a le plus d'obèses.
Mais ça consiste en quoi ce type d'intervention?
Il y a trois types de chirurgie. La première, c'est l'anneau gastrique, qui a été posé par milliers dans les années 2000, mais de moins en moins aujourd'hui. On entoure l'estomac avec un anneau en silicone pour restreindre le passage des aliments.
Alors ça, c'est pour la première.
Et la deuxième, c'est ce qu'on appelle la sleeve gastrectomie. Elle consiste à couper les deux tiers de l'estomac pour réduire sa taille. Et c'est la technique la plus utilisée.
Et il y en a une troisième, alors c'est laquelle?
Eh bien, c'est le gastric bypass. Écoutez le professeur Patou, responsable du centre spécialisé de l'obésité du CHRU de Lille. Cette intervention, dit-il, est très technique.
Elle combine d'une part la réduction de l'estomac sous la forme d'une petite poche gastrique et puis ensuite un court-circuit puisqu'on va coudre l'intestin qu'on va chercher un peu plus bas sur cette petite poche gastrique. Et donc les patients voient de façon assez spectaculaire la faim disparaître parce que l'intestin est entre guillemets trompé et les aliments arrivant plus vite dans le bas de l'intestin informent plus vite d'un signal de rassasiement le cerveau. Et donc ces patients, c'est assez spectaculaire, qui avaient de l'appétence par exemple pour les aliments sucrés, quelques semaines après l'intervention, décrivent très bien qu'ils n'ont plus de goût pour les aliments sucrés. C'est quelque chose qu'on a découvert et qui contribue certainement à l'efficacité de ces opérations.
Et donc c'est une technique très efficace.
Oui, on peut perdre jusqu'à 40% de son poids. J'ai même rencontré un homme qui a perdu 60 kilos en quelques mois. Sa vie a radicalement changé, tout comme celle d'Isabelle, une femme qui s'est fait opérer deux fois et qui ne le regrette pas.
Le changement de vie est phénoménal. Quand on est opéré d'une chirurgie comme ça et puis qu'on redevient « normal », entre guillemets, selon les critères de la société, quand on marche dans la rue et qu'on devient anonyme, qu'on n'est plus regardé, c'est un plaisir magnifique. On n'entend plus de réflexion, on entend « waouh, c'est merveilleux ». Ça, c'est, pour moi, ça a été le premier changement de vie. Le deuxième, ça a été de pouvoir me sentir beaucoup plus à l'aise dans mon corps. J'ai commencé à faire de l'activité sportive. C'était un mot cochon pour moi avant. Mais maintenant, j'y prends goût. C'est ça le pire. On y prend goût.
On y prend goût, mais alors si c'est si génial que ça, Laetitia, où est le problème?
Eh bien, le problème, c'est d'abord que le taux de mortalité reste non négligeable, 1 pour 1000. Ce chiffre a été divisé par 2 en quelques années, mais les risques de complications restent réels, comme l'explique encore le professeur Patou du CHRU de Lille.
Quand on fait une couture entre deux structures digestives, cette couture, elle peut fuir. Il y a du liquide digestif qui peut s'échapper et créer ce qu'on appelle une péritonite. Heureusement, c'est très rare, mais c'est suffisamment grave pour qu'on y soit extrêmement attentif. Et d'autres complications directement chirurgicales, comme par exemple une phlébite liée à l'immobilisation chez une personne obèse qui peut créer une embolie pulmonaire. Si on met toutes ces complications ensemble, on va aboutir à un taux d'environ 5 à 10 % suivant la définition de complications sérieuses, complications qui vont être un changement dans le programme qui était prévu. Ce qui signifie en miroir que 9 fois sur 10, on entre, on est opéré et on sort comme c'était prévu.
Ouais, 9 fois sur 10, mais ça veut quand même dire que dans près de 10 % des cas, il peut y avoir un souci.
Oui, et notamment quand tout n'est pas fait dans les règles. Or, cette chirurgie doit se faire dans un cadre très précis. La réglementation prévoit par exemple qu'un patient passe toute une batterie d'examens avec différents spécialistes avant son opération et surtout qu'il ait un délai de préparation de 6 à 12 mois.
Et c'est pas le cas ?
Eh bien, en réalité, selon les chiffres de la Haute Autorité de Santé, 3 patients sur 10 n'ont pas eu de bilan complet avant leur opération en 2017. Et pour 5 sur 10, la décision de les opérer n'a pas été faite dans les conditions exigées. Ça peut être du fait des patients, qui sont nombreux, à vouloir contourner les procédures pour être opérés plus vite. C'est ce que constate Benjamin Castel, chirurgien de l'obésité à l'hôpital privé de l'Ouest parisien à Trappes.
Quand on arrive dans un état d'esprit en consultation où on a envie de repartir avec une date opératoire, ou en tout cas à courte échéance, on sait qu'on va être opéré, et qu'on n'a pas cette réponse-là, ben, on va voir ailleurs. Donc il y a beaucoup de gens qui vont aller là au plus offrant, enfin celui qui va surtout proposer une date la plus rapide. Un peu comme au supermarché.
Comme au supermarché, mais ça veut dire que des chirurgiens acceptent d'opérer des patients sans respecter les règles ?
Eh bien, dans certains établissements peu regardants, apparemment oui. C'est en tout cas ce que pointait en 2018 un rapport de l'Inspection Générale des Affaires Sociales, l'IGAS, dont nous avons fait lire un extrait.
La mission de l'Inspection Générale des Affaires Sociales a été alertée à plusieurs reprises sur des contournements des recommandations de la Haute Autorité de Santé. Non-respect des délais avant l'opération ou des contre-indications. En 2016, l'assurance maladie a refusé la prise en charge de 29% de ces opérations dans une trentaine d'établissements qui les pratiquaient à grande échelle parce qu'elles n'étaient pas conformes aux recommandations de la Haute Autorité de Santé.
Mais contourner les recommandations, Laetitia, c'est fréquent, non ?
Alors, difficile à dire, hein, parce qu'il n'y a pas de statistiques, mais sur des forums spécialisés sur l'obésité sur Internet, j'ai pu échanger avec plusieurs patients qui ont bouclé leur opération en 2-3 mois, et ça, ce n'est pas autorisé. C'est aussi ce que m'a dit Mélanie. Elle a tout fait dans les règles, mais 4 membres de sa famille qui étaient obèses, comme elle, et qui se sont fait opérer, ont pu le faire, eux, sans recourir à tous ces examens préalables.
Moi, j'ai dû passer un scanner du corps entier, j'ai dû aller voir un orthodontiste, j'ai dû aller voir un dentiste, j'ai dû faire un examen qui s'appelle l'ostéodensitométrie. Ça, c'était une radio de tous mes os, du corps entier aussi. Et eux, ils n'ont pas eu tout ça à faire. Ils m'ont dit, oh là là, mais qu'est-ce que t'es suivi, toi, avant de te faire opérer, quand même? Ça nécessite pas autant de consultations chez les spécialistes. Moi, j'aurais dit, c'est le protocole de l'hôpital, je ne peux pas faire autrement.
Ouais, donc elle est dans les clous, mais d'autres réussissent à raccourcir les délais.
Oui, et ça ne date pas d'aujourd'hui. J'ai rencontré une jeune femme qui s'est fait opérer en 3 mois seulement, il y a 10 ans. Elle a souhaité rester anonyme, mais elle m'a expliqué comment elle a procédé.
Le public, c'était très long en termes d'attente, plus long que ce que je pouvais supporter. Donc j'ai été taper à la porte du privé, voir ce qu'ils disent, si déjà les délais sont plus courts. Et effectivement, c'est beaucoup, beaucoup plus court. J'ai pris un premier rendez-vous et déjà au premier rendez-vous, on m'avait donné l'accord de me faire opérer. Et j'ai été opérée dans la foulée.
Et ça a pris combien de temps en tout ?
Je dirais même pas 3 mois. Ça a été très, très rapide. Après, non, je regrette pas ce que j'ai fait. Mais oui, c'est jouer avec la santé des gens, en fait.
Jouer avec la santé des gens, dit-elle, parce qu'à la suite de son opération, elle n'a pas été accompagnée et elle a appris des années plus tard qu'elle avait des carences en vitamines. Elle est d'ailleurs toujours suivie pour ça.
Mais c'est si facile, je reviens à ça, de trouver un établissement qui accepte de vous opérer en 2 mois au lieu de 6, par exemple.
Eh bien, pour le vérifier, j'ai moi-même pris rendez-vous dans une clinique avec un chirurgien de l'obésité et je me suis fait passer pour la sœur d'une jeune femme obèse qui a essayé tout un tas de régimes qui n'ont pas marché, qui vient de rencontrer quelqu'un et qui veut maigrir très vite et donc se faire opérer en 3 mois.
Et donc, le chirurgien, il vous a dit quoi ?
Eh bien, vous allez l'entendre, c'est la retranscription au mot près de l'échange que j'ai eu avec lui et que j'ai fait lire. Voici donc ce qu'il m'a répondu.
Il y a 6 mois d'attente pour faire la chirurgie si on n'a jamais vu un nutritionniste. Votre sœur en a vu un ? C'était quand ?
C'était il y a 5 ans.
Oui, il y a 5 ans, c'est bon. La seule chose, c'est qu'elle doit avoir une lettre qui montre qu'elle a déjà vu un nutritionniste. Ou un mail même, qui dise qu'elle a eu des rendez-vous.
Et après ?
Il faudra le temps de bien la préparer, qu'elle fasse des examens, et il n'y aura pas besoin d'attendre 6 mois. Ça prend beaucoup moins longtemps si on les fait ici.
Donc ça prend pas 6 mois ?
Non.
Même si elle n'a pas vu de nutritionniste ?
Même si elle n'a pas vu de nutritionniste. On va trouver un système pour éliminer cette histoire de 6 mois.
Ouais, on va trouver un système, c'est assez clair effectivement là. Hein. Sauf que cette façon de contourner les règles, Laetitia, eh bien, elle peut avoir des conséquences.
Oui, et le résultat, c'est que des patients qui n'ont pas eu assez de temps pour se préparer à leur opération arrivent ensuite avec des complications dans les centres spécialisés de l'obésité, comme en témoigne Paulina Blaiseau, la coordinatrice du centre du Nord-Île-de-France.
Beaucoup d'établissements opèrent des patients sans les avoir suffisamment préparés, ne leur assurant pas nécessairement un suivi. Ce qui fait que beaucoup de centres spécialisés de l'obésité récupèrent des patients qui ont été opérés ailleurs, de nombreux patients, parce que ce n'est pas, malheureusement, ça ne se limite pas à quelques-uns par an, c'est de nombreux patients qui ont été opérés ailleurs et qui arrivent avec des complications extrêmement graves et importantes.
Des complications, mais de quel type de complications elle parle ?
Alors on l'a dit, de carence en vitamines, mais il y a aussi des complications d'ordre psychologique. Et Roxane Mallet, clinicienne psychothérapeute, spécialiste des troubles du comportement alimentaire, nous explique pourquoi.
L'image du corps va changer. Ça va avoir des répercussions sur la manière dont la personne va se sentir, déjà avec elle-même, mais aussi dans ses liens avec les autres. Dans ses liens de couple, par rapport à ses enfants, par rapport à ses amis. Il faut que la personne comprenne également que c'est un suivi à vie, c'est-à-dire que la chirurgie ne résout pas le problème de l'obésité. C'est un élément d'aide, mais la personne qui a été obèse reste physiologiquement et psychologiquement plus fragile à vie. La reprise de poids est toujours possible.
Ah oui, une reprise de poids est possible, même avec l'opération donc.
Ben oui, c'est assez fréquent et j'ai rencontré plusieurs personnes dans ce cas. Et ça, Éric Drahi, un médecin généraliste qui suit des patients obèses, le confirme.
Beaucoup de patients n'ont eu que une ou deux consultations de psychologue pour pouvoir gérer leur comportement alimentaire. Et dans les suites des opérations, si les comportements ne sont pas maîtrisés par les personnes, il y a une reprise de poids rapide, importante, parce que tout le travail psychologique n'a pas été fait avant.
Ouais, donc sans travail psychologique suffisant avant l'opération, on peut rechuter.
Oui, mais il n'y a pas que ça. Il peut aussi y avoir l'apparition d'addictions. C'est ce qu'a constaté Alain, un homme âgé d'une trentaine d'années. Lui a perdu 60 kilos et se fait accompagner par un psy. Mais il connaît des personnes qui sont devenues alcooliques après leur opération.
Il faut bien se rendre compte que lorsque vous êtes opéré d'un bypass, vous ne pouvez plus vous tourner vers l'aliment pour le réconfort ou pour passer ses nerfs ou pour compenser. Et du coup, vous vous retrouvez sans rien. Et là, ça peut être très difficile. Moi, je prends un verre de vin. Pourtant, je suis quand même jeune et je commence à être un peu, à avoir la tête qui tourne un peu. Et du coup, il y a ce côté ivresse tout de suite. Et il y a des personnes qui se tournent vers l'alcool. Il y a énormément d'alcoolisme par rapport à la population normale.
Ouais, donc l'alcool, ça peut vite devenir une béquille.
Effectivement. Et ça, la psychothérapeute Roxane Mallet l'explique très bien.
Moi, j'ai eu des patients, par exemple, qui n'avaient pas de problème d'alcool avant, qui, après la chirurgie, ne pouvant plus manger, se sont mis à boire. Parce que le vide qui était comblé auparavant par la nourriture, du vide affectif, souvent, il faut bien le combler par quelque chose. Et du coup, on a des patients qui vont encore plus mal après la chirurgie, parce que non seulement ils ne peuvent plus manger, mais en plus de ça, leur chirurgie ne marche pas bien, parce qu'ils vont perdre moins de poids que prévu, ils vont même en reprendre et en plus de ça, ils vont être alcooliques.
Oui, ils deviennent alcooliques et ils sont nombreux dans ce cas-là.
Ces problèmes d'ordre psychologique représentent 4% des complications après une intervention selon l'assurance maladie. Et dans ces 4%, il y en a 3% qui sont des tentatives de suicide. Ces risques ont été clairement pointés dans le fameux rapport de l'Inspection générale des affaires sociales, dont voici encore un extrait.
Des difficultés d'ordre psychologique peuvent apparaître ou s'aggraver en lien avec les modifications du corps qui ne correspondent pas aux attentes des patients, sentiment de vulnérabilité ou d'étrangeté. Cet écart entre idéal et réalité peut induire, outre une reprise de poids, le développement d'addiction, d'anorexie, de troubles anxieux et dépressifs. Des publications rapportent des risques suicidaires accrus après la chirurgie bariatrique.
France Inter. Secret d'info. Jacques Monin.
Bien, alors maintenant qu'on a vu que certains établissements ne respectent pas les délais préconisés pour les opérations de l'obésité et que ça a des conséquences parfois graves pour les patients, eh bien on va voir que même après les opérations, il arrive que le suivi médical soit défaillant, Laetitia Chirel.
Ah oui, normalement, les patients doivent faire l'objet d'un suivi médical post-opératoire à vie. Le problème, c'est que plus de la moitié ne sont plus suivis 5 ans après leur opération, selon l'assurance maladie. Ces patients, on les appelle les perdus de vue. Et certains font appel à l'association Vers un nouveau regard qui aide les personnes obèses à Paris. C'est ce que nous explique sa présidente, Yolande Pontonnier.
J'ai régulièrement, je ne vais pas dire une fois par semaine, mais assez souvent, des gens qui m'appellent pour me dire, voilà, moi j'ai opéré à tel endroit, j'ai pas de suivi, j'ai des carences de ceci, j'ai des carences de cela, qu'est-ce que je peux faire? Donc moi, j'ai pas non plus une baguette magique. Je leur dis, il faut retourner vers le chirurgien, vers l'équipe médicale qui s'est occupée de vous. J'en ai même de province qui m'appellent, mais je pense que c'est un peu partout. Hein. Ça doit être un fléau, ça aussi, je pense.
Un fléau, mais pourquoi un fléau ?
Eh bien parce qu'après leur opération, ces patients mangent moins, ils ont donc souvent des carences en tout genre. Et le problème, c'est que beaucoup d'entre eux n'ont pas assez d'argent pour s'acheter des compléments alimentaires qui coûtent cher. Car l'obésité touche en majorité les classes sociales les moins aisées. Or, s'ils ne prennent pas de substituts, les patients risquent des complications parfois irréversibles, comme le rappelle Anne-Sophie Joly, la présidente du CNAO, le collectif national des associations d'obèses.
Il faut prendre des vitamines à vie, parce que ce cocktail de vitamines, votre corps en a besoin pour bien fonctionner et que des carences en vitamines peuvent vous engendrer à terme une faveur au cancer et à des problèmes neurologiques, parce qu'une carence de vitamines vous emmène à des cas extrêmes, je dis bien extrêmes, de risque de maladies neurologiques irréversibles. Vous terminez en légumes parce que votre cerveau, qui est l'organe principal qui doit être alimenté, il n'a pas eu son carburant.
Bon, mais elle est alarmante, là, cette présidente d'association. C'est aussi risqué que ça de ne pas être suivi ?
Eh bien, c'est ce que disent tous les experts. Écoutez encore le professeur Patou du CHU de Lille. Il nous détaille les complications qu'un manque de suivi peut engendrer.
Des paralysies, des cécités, donc des choses extrêmement sérieuses, exceptionnelles. Mais dans chaque centre, quelques exemples sont survenus de patients qui ont eu ces complications graves qu'on ne voyait plus dans les pays occidentaux et qui sont donc réapparues chez certains patients opérés s'ils ne bénéficiaient pas d'un suivi attentif ou des cours d'intervention.
Et puis, il y a un risque particulier aussi pour les femmes enceintes.
Oui, pour les femmes obèses qui se sont faites opérer avant d'être enceintes et qui ignorent qu'elles ont une carence de vitamines, et notamment de vitamine B12. Or, ça peut avoir des conséquences très graves pour leur bébé. Comme l'explique Annie Foy, la responsable du département hospitalisation à la CNAM, la Caisse nationale de l'assurance maladie.
Manquer de vitamine 12, eh bien, c'est exposer son enfant à des troubles importants parce que la vitamine B12 est importante pendant le développement du nourrisson. Donc, ce suivi nutriments, vitaminiques est important et pouvoir prendre les suppléments qui permettent d'avoir un bon équilibre évite d'avoir des troubles, parfois jusqu'à la paralysie, si vous avez une carence qui est très très importante dans certaines vitamines.
Oui, donc risque de carence, hein, on l'a vu. Mais on a aussi évoqué autre chose tout à l'heure. J'ai entendu aussi prononcer le mot de risque de cancer.
Oui, des cancers comme celui de l'œsophage ou du côlon. Et ça, c'est lié à la fameuse technique dite du bypass, qui court-circuite et raccourcit l'intestin, comme le précise Marc Vertrayen, un chirurgien basé à Bruxelles.
Les aliments doivent passer la sphère intestinale, c'est-à-dire cheminer au travers de l'intestin grêle sur une distance plus ou moins de 6 mètres. Le principe du bypass, c'est de raccourcir cette distance à peu près à 1,20 m, 1,50 m. Il est clair que donc à ce moment-là, vous avez toute une série d'aliments qui ne seront pas digérés. Ça provoque un amaigrissement, mais vous avez également des pertes de protéines, des pertes de vitamines. Et surtout, les aliments non digérés vont arriver dans le côlon. Le côlon n'est pas fait pour ça. Et d'après les études, il y a quand même une augmentation significative du nombre de cancers du côlon. Lorsqu'on compare deux populations d'obèses, ceux qui sont opérés et ceux qui ne sont pas opérés d'un bypass, ben, il y a 14% de différence. Donc là, évidemment, on risque de se retrouver d'ici quelques années avec une catastrophe épidémiologique. Lorsqu'on joue quelque part à l'apprenti sorcier, il faut s'attendre à ce genre de risque.
Ouais, donc ces opérations sont loin, on l'entend, d'être anodines. Mais il n'y a pas que les médecins qui font ce constat, il y a également des assureurs qui l'ont fait.
Effectivement, il faut savoir que la chirurgie de l'obésité est l'une des plus risquées avec la chirurgie orthopédique. Le nombre de personnes qui ont porté plainte n'a cessé d'augmenter jusqu'à il y a peu, en 2016-2017. Alors écoutez Philippe Ozimour, le directeur général de l'assureur branché, qui est le numéro un des chirurgiens et des anesthésistes. Certaines de ces plaintes, dit-il, sont déposées pour des raisons très graves.
Presque 15%, c'est des décès. Donc c'est une chirurgie qui peut encore occasionner la mort, souvent suite à des complications importantes. Mais même si la mortalité a été divisée par deux en 10 ans, elle reste de l'ordre du pour mille, un pour mille. Ce qui est quand même un risque important.
Bon, mais quand on entend tout ça, Laetitia, on se demande en fait s'il faut vraiment se faire opérer.
Alors attention, on a vu que le problème n'est pas forcément l'opération elle-même, mais les dérives liées au non-respect des règles. Raccourcissement des délais, examen préalable non réalisé ou absence de suivi psychologique.
Oui, puis il faut préciser que c'est justement pour éviter qu'on ne les respecte pas ces règles que la réglementation, on le disait au début, doit changer.
Oui, d'abord, certains établissements spécialisés vont expérimenter le remboursement des compléments alimentaires et des séances de psy, ce qui devrait inciter les patients à mieux assurer leur suivi. Ensuite, d'ici quelques mois, les établissements vont être soumis à une autorisation pour pratiquer la chirurgie de l'obésité, autorisation qui n'est pas nécessaire actuellement.
Et ça changera quoi ?
Eh bien, ne seront autorisés à pratiquer que les centres qui ont l'habitude de faire ce type d'opération. Il y aura un seuil minimum d'activité, ce sera peut-être 50 interventions par an, le chiffre n'est pas encore arrêté, mais pour le professeur Patou du CHU de Lille, c'est une bonne décision, car ce seuil est important.
On ne peut pas imaginer qu'une prise en charge soit optimale dans un centre qui fait 2 ou 3 opérations par an. Clairement, moins d'une par semaine, on voit bien qu'on n'est pas dans une situation où on peut assumer non seulement les cas faciles, mais aussi les cas plus complexes. Donc, ça paraît légitime. Par ailleurs, on a pu examiner dans les chiffres français que la mortalité dans les centres qui font moins de 50 était nettement supérieure, 3 fois plus, que dans les centres qui en faisaient plus que 50. Donc, on voit ici un équilibre raisonnable. C'est d'ailleurs ce que la société savante, la SOFCO, a choisi comme limite, 50 par an.
La SOFCO, qui est la Société française de chirurgie de l'obésité. Et je précise que si ce seuil de 50 opérations par an était retenu, 250 établissements qui pratiquent actuellement cette chirurgie n'auraient plus l'autorisation de le faire.
Ouais, 250, ça n'est pas rien. Ça veut dire qu'on pourrait assister à une véritable petite révolution dans le monde de la chirurgie de l'obésité. Bien, merci Laetitia Chérel. Alors je précise que votre enquête, on peut la réécouter, on peut la lire, on peut la podcaster aussi sur franceinter.fr et sur l'appli France Inter. Vous pouvez également nous y laisser vos commentaires. Vous pouvez le faire aussi sur la page Facebook de la cellule Investigation de Radio France ou encore sur Twitter, Investigation RF. Mais surtout, restez avec nous. Mangera-t-on bientôt de la viande issue de cellules souches ? Vous n'imaginez pas ce que de nombreuses startups sont en train de nous préparer et de ça, on parle dans quelques instants. Somewhere between drunkenness and chivalry, I hold the door open and let her pass through. She says thanks to me in a British accent, and I trade hands to her in the same voice. She laughs at me, says, what was that supposed to be? I say, I'm sorry, I'm from a different part of the country. She says, come on, baby, try again. Come on, baby, try again. Thank you.
brokenness and charity. She puts her hand on the sleeve of my coat. She says, I've missed this. I say, I know I've missed you too. She says, I was actually talking about your coat. She makes me laugh. Oh wow, she makes me laugh. I just let my head sink down and fake some deep sores. Come on, baby, try again. Come on, baby, try again. Somewhere between drunkenness and jealousy, I watch her talking to some old friend. What a reunion. He recognized her across the room. How many years could there be to catch up on? And somewhere between drunkenness and honesty, I make a silent toast to the things that I do and don't miss. Come on, baby, try again. Come on, baby, try again. Come on, baby, try again. Come on, baby, try again.
C'est enjoué, c'est léger, positif, c'est presque naïf d'ailleurs, et ça fait du bien. C'était Try Again, et c'est encore extrait du dernier album du Canadien Andy Schauf.
Secret d'info, Jacques Monin. Sur France Inter.
Alors nous recevons Gilles Luneau, bonjour.
Bonjour.
Ça va être beaucoup moins léger là, vous publiez un livre qui s'appelle Steak Barbare, un livre enquête sur la viande qu'on mangera demain. C'est une viande fabriquée à partir de cellules souches. Alors pour qu'on sache bien de quoi on parle, on va commencer par ça. C'est quoi ce qu'on pourrait appeler la viande cellulaire ?
La viande cellulaire, c'est une viande cultivée. En fait, à partir d'une cellule, on prend une cellule de muscle, ce qu'on appelle une cellule souche, mais ça peut être même, pour de la viande de poulet, une cellule de plume, à la base de la plume, et on la fait se multiplier, c'est un phénomène naturel, hein. Donc dans un milieu de culture, qui reste à définir et qui est encore à l'étude, mais le principe c'est la multiplication cellulaire, c'est la base...
Donc c'est d'origine animale, mais on ne tue pas d'animal.
Voilà, exactement.
La NASA a travaillé dessus en 2001 déjà.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que au départ, ce sont des recherches de la NASA en vue des voyages spatiaux très lointains, quoi. On pense à Mars et ou d'autres planètes ou même une station sur la Lune. L'idée étant qu'on peut pas embarquer comme ça des tonnes de nourriture quand on part pour 6 mois de voyage.
Alors le 5 août 2013, là c'est la première présentation d'un steak in vitro, ça se passe à Londres. C'est un steak de 142 grammes qui a coûté 142 000 euros.
Oui, c'est ça. Et ce petit steak de 142 grammes, c'est le signal, on va dire, qui va déclencher l'émulation finalement de plein de laboratoires qui vont naître. Hein. Là-dessus, aujourd'hui, on a une cinquantaine.
Plein de start-up, on va en parler, mais avant ça, il faut quand même préciser qu'on arrive finalement quasiment à faire n'importe quoi aujourd'hui. Enfin, on fait des œufs brouillés sans œufs, on a des substituts de pommes, on a même du thon à base de cellules souches, on fait quasiment tout.
Oui, des fruits de mer, tout ça est encore au stade expérimental de laboratoire, n'est pas encore... n'a pas encore le droit d'être dans le commerce, et puis il y a des problèmes de production de masse, on va dire. Pour le moment, ils ont résolu la question scientifique de le faire, ils n'ont pas résolu le passage à l'échelle industrielle.
Alors, vous le disiez, il y a donc derrière ça tout un mouvement de start-up qui sont nés, vous êtes allés justement les rencontrer, voir sur place pour les interroger. Ça se passe essentiellement à San Francisco, et finalement, il y a un rapport quelque part entre la Silicon Valley, hein, ceux qui sont les génies du numérique et les GAFA d'aujourd'hui, et cette nouvelle alimentation.
Ben, il y a un rapport financier, c'est-à-dire que la Silicon Valley, les milliardaires du numérique, hein, ont de l'argent à foison, finalement. Je vous prenais Mark Zuckerberg, enfin, qui donne 500 millions de dollars à un fonds, qui place, en particulier dans la viande in vitro, et dans le soutien aux organisations véganes. Parce que les deux sont liés, c'est les mêmes fonds, hein, et c'est ce que je montre dans mon enquête. Je veux dire, il y a une collusion, en fait, objective, quoi, entre financer les organisations véganes, les organisations antispécistes, celles qui attaquent les boucheries, celles qui répandent de la peinture rouge et qui font du happening comme ça. On montre des images horribles, à juste titre, hein, de la production industrielle de viande. Je ne veux même plus parler d'élevage, parlons de production industrielle de viande. Et ils ont raison de dénoncer ça. Par contre, derrière, vous avez, on va pas retourner à un élevage respectueux des animaux, enfin ce qu'on connaît d'agriculture paysanne, pour faire très court, mais on vous propose à la place un substitut, produit industriellement toujours, qui s'appelle la viande in vitro.
Donc si je vous entends, les véganes seraient le cheval de Troie de cette nouvelle industrie de la viande in vitro.
Oui, absolument. Ouais. Et le marché, c'est pour répondre complètement à votre question, le marché c'est celui des omnivores, c'est-à-dire que le grand marché, c'est le marché des pays en voie de développement, c'est l'Inde, c'est la Chine. C'est pas parce qu'on est vegan et à la tête d'empire du numérique ou de start-up qu'on vise pas ce marché-là. Bill Gates est le premier à financer, Branson est le premier à financer la viande in vitro.
Donc il y a une convergence quand même entre effectivement l'industrie du numérique d'aujourd'hui et les GAFA d'un côté et la viande in vitro, la nouvelle alimentation qu'on nous prépare demain également.
Absolument. Ce même réseau finance les start-up de la viande in vitro.
C'est une génération, vous le dites dans le livre, c'est une génération de cadres effectivement formés au numérique, sensibles aussi à la question du transhumanisme, sont des gens qui se prennent, je caricature peut-être, mais pas vraiment, pour Dieu, quoi. C'est-à-dire on refaçonne l'homme et on refaçonne la manière dont la nature fonctionne aujourd'hui.
Oui. Ils se sentent investis d'une mission, c'est-à-dire que l'alerte que le monde connaît par rapport au climat, à la biodiversité, à la question de la démographie et de nourrir tout le monde, ils se l'approprient en disant « nous, on va sauver le monde, on a une solution ». On a une solution, c'est de prendre ce marché-là.
Parce que ça règle tout, là. On tue plus d'animaux, il n'y a plus de souffrance animale, il n'y a plus d'émissions de carbone, de CO2, on règle le problème de la planète, et en plus, on peut nourrir tout le monde.
Oui, sauf qu'on règle aucun problème, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des biais intellectuels dans ce discours-là, que ça soit sur le climat, que ça soit sur la biodiversité, et que ça soit sur nourrir le monde.
C'est quoi les biais ?
Il y en a plusieurs. Bon, d'abord, il y a des vraies fadaises sur faire croire aux gens qu'un kilo de bœuf consomme 15 000 litres d'eau. C'est-à-dire qu'ils calculent la pluie qui tombe sur la prairie, que le bœuf broute. Mmh. Je veux dire, vous enlevez le bœuf, la pluie tombera toujours, l'herbe elle poussera toujours.
Enfin, le méthane, ça provoque quand même des gaz à effet de serre. Ça, c'est une
réalité. Absolument. Mais la prairie absorbe le CO2, fixe du carbone, si vous voulez, qui compense. Ça dépend des endroits, parce que c'est quand même très variable, hein. Mais on est entre 30 et 80%, je cite les chiffres de l'INRA, hein, ça sort pas de ma tête, d'absorption de gaz à effet de serre par une prairie.
Alors, on parlait des enjeux financiers qui sont absolument énormes. Vous dites, vous, qu'il y a une bulle financière qui est en train de se créer autour de cette problématique.
Oui. Il y a déjà, depuis le début, qui est quand même relativement récent, on va dire 2013-2014, on en est à 14 milliards de dollars d'investissement. Ce qui est quand même pas rien. C'est un vrai signal, on va dire, pour les investisseurs. Et il y a tout un réseau, je vais dire, de capital risqueurs, de toutes ces sociétés, ces grandes sociétés. Hein. Vous prenez la fondation, enfin Jérémy Collère, qui est un des plus gros...
Un homme d'affaires britannique,
qui a une société d'investissement, de conseil en investissement. C'est la première mondiale sur le second marché, qui aujourd'hui oriente ses clients, qui sont d'énormes sociétés, pour mettre dans la viande in vitro et les substituts à base de protéines végétales.
Bon, cela dit, cette viande aujourd'hui, on peut pas la manger. D'abord, elle n'est pas autorisée. Et par ailleurs, il y a quand même un gros lobby aussi de l'élevage en France et en Europe.
Il y a un gros lobby de l'élevage, mais les tenants, les plus forts de ce lobby-là sont en train de passer à la viande in vitro. Ils prennent pas le risque. Les plus gros opérateurs de viande du monde, JBS, qui est brésilien, qui est le plus gros opérateur, le deuxième qui est Tyson Foods, qui est américain et qui tient le marché américain, et pour partie l'étranger, Cargill, qui est la plus grosse société agroalimentaire du monde, investissent aujourd'hui dans la viande in vitro. C'est-à-dire que ils détectent dans le comportement, on va dire, d'achat, l'érosion de la consommation de viande dans un certain nombre de pays occidentaux. Ils se disent « Oh là là là, on va pas perdre ça ». Et donc,
ils font le pari que le marché est porteur et que la réglementation suivra ?
Oui, ils font le pari de la substitution d'un marché par un autre. Ça va très très vite. Il y a déjà du lobbying sur les politiques aux États-Unis, en Europe, pour faire passer l'acceptation de la viande in vitro légalement, quoi, dans la traduire en termes légaux.
Ça veut dire qu'il n'y aura plus de fermes demain ?
C'est un risque. Je pense que c'est un vrai risque. Alors quand vous les interrogez, ils disent « mais non, il restera l'agriculture comme vous la connaissez en France, bio, paysanne, ça sera une niche. Ça sera une niche avec de la viande plus chère. » Moi, j'y crois pas parce que quand les mêmes disent, on reprend leur déclaration, les mêmes disent « notre but, c'est d'éliminer l'élevage ». Parce que au bout, il y a un gain de productivité. On s'embête plus avec les animaux, on s'embête plus avec les paysans.
Bah écoutez, nous voilà prévenus, on sait maintenant à quoi s'attendre. Donc pour ceux que ça intéresse, bah je rappelle que votre livre, Gilles Luneau, s'appelle « Steak barbare » et je précise qu'il paraît aux éditions de l'Aube. C'est la fin de Secret d'Info, une émission préparée par Martin Broyer, réalisée par Christophe Imbert. La programmation musicale était signée Jean-Baptiste Audibert et à la technique, il y avait Alexandre Chénet et Kevin Pelot. Dans quelques instants, Emmanuel Kérad va vous emmener sur l'île de la Réunion. Quant à moi, eh bien, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à samedi prochain.